Bonjour, l'objet de cette vidéo est le délitement de l'Europe de crise en crise. Et face au coronavirus, il en a été de même que face aux crises précédentes. Il n'y a pas eu de solidarité par rapport à la disponibilité des masques, des tests, aussi bien que des écouvillons ou des machines respiratoires. Les pays européens se sont même arrachés les masques. Il n'y a pas eu non plus de décision commune sur les restrictions de circulation, les frontières, le confinement strict ou non, l'ouverture ou non des écoles. Chaque pays a pris ses mesures en fonction de ses propres impératifs et du rapport de force qui lui permet d'imposer ses choix. L'Europe n'est qu'un regroupement de pays en concurrence et sous la domination des pays les plus riches. Cela a été constaté face à la crise de 2008, face à la crise de l'euro qui a suivi et à celle provoquée par les attentats terroristes ou à celle des migrants en 2015. L'égoïsme des États et le retour des frontières ont été mis en péril, deux bases de l'Union européenne, l'espace de Schengen et le marché unique. Ainsi, le 9 mars 2020, la Pologne a instauré des contrôles sanitaires à sa frontière avec l'Allemagne et la République tchèque. 2 jours plus tard, l'Autriche et la Slovénie réduisaient au strict minimum les entrées de personnes en provenance d'Italie. Le 12 mars, la République tchèque interdisait l'entrée de son territoire aux ressortissants de 15 pays et la Slovaquie fermait totalement ses frontières à tout ressortissant étranger, à l'exception des Polonais. Le lundi 16 mars, l'Allemagne a institué des contrôles aux frontières avec ses voisins sans pour autant interdire l'entrée des travailleurs frontaliers dont manifestement elle ne pouvait plus se passer. Le 17 mars, les frontières extérieures de l'espace de Schengen ont été fermées jusqu'au 15 mai. Mais le virus se moque de la fermeture des frontières, d'autant qu'entre les décisions prises et la réalité sur le terrain, il y a une sacrée différence. Ainsi, la crainte de la fermeture des frontières a poussé des centaines de milliers de travailleurs saisonniers ou détachés à rentrer au plus vite et donc à essayer de passer au travers des mesures de quarantaine ou du confinement là où ils étaient. Le confinement strict, décidé en particulier par l'Italie, la France et l'Espagne, a limité l'horizon de chacun à quelques kilomètres carrés, comme autant de frontières qu'il fallait franchir avec une attestation. Le tracé des frontières nationales est issu d'une longue histoire. Mais face à la pandémie, que représente-t-il? Les porteurs de virus français de Mulhouse étaient bien plus contagieux que les habitants de la toute proche Suisse ou Allemagne, pas encore infectés. Et qu'en est-il des migrants? Avec la pandémie, ils ont été confinés dans les camps en Grèce où ils sont bloqués. Le ministère des Migrations grecques a décidé d'y interdire les visites extérieures. 40 000 personnes sont ainsi entassées sans la moindre assistance et dans des conditions indignes. Alors qu'ils soient pro ou anti-Europe, les politiciens européens sont pour la bourgeoisie. L'extrême droite et certains courants de gauche, comme celui de la France insoumise, fustigent depuis des années l'Union européenne responsable de tous les maux. Les règles, soi-disant indépassables, rendraient impossible une politique nationale favorable à ses ressortissants. Mais les différents gouvernements de l'Europe savent s'affranchir des règles qui se sont eux-mêmes données, que ce soit à propos des frontières, des migrants ou encore sur le terrain économique, en fonction de l'intérêt de la bourgeoisie. Les pro-Europe ont laissé la Grèce et l'Italie faire face à l'afflux de plusieurs millions de réfugiés. Les règles de Maastricht, tant décriées, ne sont appliquées par les États européens de la zone euro que quand ils servent les intérêts de la bourgeoisie nationale. Les partis pour ou contre le Brexit se sont opposés pendant 4 ans, mais sortir de l'Europe s'avère un problème inextricable. En quoi la sortie de l'Europe sera-t-elle favorable à la population ouvrière anglaise? En fait, l'impossibilité de définir une politique commune est une tare originelle de l'Europe. La bourgeoisie européenne a fini par se lancer dans la construction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Au départ, et cela est significatif, c'est l'impérialisme américain qui a poussé au premier pas de la collaboration européenne, une collaboration économique dans l'intérêt bien compris de la bourgeoisie américaine. Les États-Unis, grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, ont ouvert un plan équivalent à 130 milliards de dollars actuels, le plan Marshall, pour remettre l'économie européenne en fonctionnement à la condition que des produits américains soient achetés et que les pays européens collaborent. Dans un contexte de guerre froide, il y a eu l'Europe de l'acier et du charbon, puis celle de l'énergie atomique, avec une Europe des 6, puis des 12, etc. Cette collaboration a commencé par des secteurs réclamant des capitaux qu'aucun pays ne pouvait apporter. Il y a eu quelques succès ultérieurs avec Airbus ou Ariane, mais la grande majorité des entreprises concurrentes au sein de l'Europe ont poursuivi leur développement accroché à leur État national. Cette construction est sans cesse remise en cause. Chaque étape de la construction européenne a pris un temps fou, a nécessité des heures de discussion, de chantage, les plus forts faisant accepter aux plus faibles leurs conditions. Le résultat, c'est une Europe à multiples visages. Comme le montre la carte, certains pays peuvent appartenir à l'Union européenne sans avoir adopté l'euro. Cette construction à géométrie variable illustre le fait que les intérêts des bourgeoisies nationales sont contradictoires. Chacune d'entre elles tient aux mille liens qui la lient à son État, ses commandes, ses subventions. Alors, pour favoriser les échanges intra-européens, se protéger des opérations spéculatives sur les monnaies, les bourgeois ont eu besoin d'une même monnaie. Pour cela, ils se sont donné des règles inscrites dans le traité de Maastricht, fixant des limites à certains indicateurs tels que le déficit, le taux d'inflation. Mais 10 ans plus tard, tous les États européens se sont endettés pour renflouer leurs banques respectives, lancer des plans de relance après la crise de 2008. Ils se sont tous affranchis des critères de Maastricht, notamment celui qui fixait l'endettement des États à 3% du PIB, le produit intérieur brut. La masse de ces emprunts de certains États a engendré une perte de confiance dans leur capacité à rembourser. Les investisseurs ont alors augmenté leur prime de risque, c'est-à-dire le taux auquel ils acceptent de financer ces États. La Grèce, l'Espagne, par exemple, se sont retrouvés asphyxiés. La Banque centrale européenne a réagi en achetant des dettes contractées par ces États. Officiellement, chaque État reste responsable de ses dettes et de leur gestion. Il n'y a pas de mutualisation. Mais ce système de rachat des dettes des États ou des entreprises les plus exposées constitue de fait une mutualisation, mais appliquée après coup. Cette politique s'est poursuivie d'année en année au point que la Banque centrale européenne possède de l'ordre de 20% des dettes des différents États européens. Cette politique vient d'être contestée par la Cour constitutionnelle allemande. Alors, l'euro n'a pas disparu dans la tourmente, mais sa fragilité est apparue au grand jour. Pour la population, la défense des créanciers européens s'est traduite par une politique d'économie drastique, destructrice des services publics, du système de santé, engendrant des licenciements massifs, des baisses de salaires et de pensions comme en Grèce. La pandémie a déclenché une nouvelle spéculation sur le taux d'intérêt auquel les États empruntent. Dès son déclenchement, ceux de l'Italie sont passés de 1% à presque 3%, ceux de la Grèce à 5%. Ces pays se retrouvent étranglés par les banques et les investisseurs. Cette fois-ci, pour calmer les marchés, la Banque centrale européenne est intervenue tout de suite, en quelques jours, par un plan de rachat des dettes contractées par les États européens et les entreprises de 750 milliards d'euros, garantissant ainsi leur remboursement, quelle que soit la situation de chaque pays. La récession est annoncée. Chaque pays ouvre à ses capitalistes les caisses publiques. Le plus riche, l'Allemagne a annoncé un plan de 1100 milliards, la France de 345 milliards, et chaque pays en a fait autant à la mesure de sa taille et de ses moyens. L'Union européenne se propose de créer un fonds de relance de 1000 milliards, voire plus, les discussions se poursuivent sur les sommes. Le mécanisme européen de stabilité a décidé, lui, d'ouvrir des prêts jusqu'à 240 milliards d'euros. Dernièrement, Macron et Merkel ont proposé un plan de relance de 500 milliards destiné aux États les plus touchés par le coronavirus. Si ce projet se concrétise, il y aura une mutualisation des dettes, mais celles-ci serviront à sauver les grands groupes capitalistes. Ces milliards qui viennent s'ajouter à ceux qui ont déjà été créés sont la forme moderne de la planche à billets. Il renforce encore le caractère parasitaire de l'économie capitaliste en augmentant le poids de la finance. Ces différents plans donnent lieu à des affrontements sur les conditions auxquelles ces prêts seront accordés, sur la contribution des États membres et sur leur répartition entre les États. Les 4 pays dits frugaux, ils se qualifient de tels. Ce sont les pays du nord de l'Europe et l'Allemagne, dans une certaine mesure, elle est en train de changer de position. Donc, ces pays prétendent que leur population ne comprendrait pas pourquoi eux-mêmes, les pays dits vertueux, devraient payer pour les plus dépensiers. Les plus dépensiers hein, qualifient les précédents, bien évidemment, de radins, hein, dans l'autre sens. Mais il s'agit en fait d'une lutte pour le partage du butin au sein d'une bande de gangsters. Son issue reflétera le rapport de force entre ces pays et la concurrence qui oppose les bourgeoisies des États membres de l'Europe. Mais elle sera, dans tous les cas, durement payée par les populations de chaque pays. La construction d'une Europe unifiée politiquement et économiquement est une utopie tant que la société reste basée sur la propriété privée et la concurrence. Ces deux piliers du système capitaliste sont contradictoires avec la collaboration nécessaire pour construire une Europe sans frontières. La bourgeoisie dépend de son État et vice-versa. Alors, comme l'a écrit Trotsky en parlant de l'Europe, je le cite, « une union source de développement et de culture ne peut être réalisée que par le prolétariat combattant, le protectionnisme impérialiste et son instrument, le militarisme ». Ce combat est toujours d'actualité.